On va pas trop attendre pour essayer de tenir les horaires aussi, pour pas vous laisser repartir trop tard. En effet, on a prévu de faire trois rencontres sur ce sujet, donc la place de l'homme dans la société caribéenne. Caribéenne, pardon. Cosette, elle était venue avec dans le prolongement de Jacques Poujol, qui nous avait fait une série sur la réflexion sur la manière de se comporter avec des personnes et des personnalités difficiles. Et dans ce cadre-là, elle nous a partagé le fait que ce sujet, elle le possède bien. Et c'est vrai qu'on a réalisé qu'il fallait aborder ce sujet dans le cadre aussi de nos églises, où il y a beaucoup d'Antillais, de personnes des Antilles, qui sont avec nous, pour qu'eux-mêmes puissent comprendre certaines choses que Cosette va nous parler au niveau de la famille, au niveau du couple, etc. Et ces rencontres se veulent très pratiques, hein, comme l'a dit Cosette. Cosette elle-même est psychologue, hein, psychothérapeute, et elle enseigne beaucoup, elle fait beaucoup d'enseignements, hein. Donc elle a l'habitude de ce genre de soirées, de rencontres. Il y aura donc un exposé, et ensuite après des temps de questions-réponses. Et elle a prévu donc sur trois séries, donc essayer de suivre ces trois séries, parce qu'elles sont voilà, elles se suivent, hein, dans un certain ordre pour bien comprendre l'ensemble du sujet. Voilà. Eh bien, on va peut-être juste prier pour que le Seigneur puisse conduire ces moments que nous allons passer avec Cosette. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous accordes pour que nous puissions réfléchir, comprendre et mettre en pratique certaines choses, Seigneur, que tu vas nous révéler au travers de Cosette. Nous te prions de la bénir, de la remplir de ton esprit et qu'elle puisse, Seigneur, parler avec autorité, avec audace, qu'elle puisse vraiment nous livrer, Seigneur, ce qu'elle a reçu de toi et pour que nos églises, Seigneur, puissent en bénéficier et que nous puissions grandir en toi. Nous te remercions pour ces trois soirées, pour tous ceux qui sont encore en chemin. Tu les gardes et tu les bénis jusque-là. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Bien, sans plus tarder, je laisse la place à Cosette pour ces trois soirées.
J'espère que ça va tenir. Voilà. Je pense que ça va tenir. Hein. J'ai oublié de faire une rallonge. S'il te plaît. Je suppose que ça arrivera. On ne sait jamais. Bien. Donc, bonsoir à tous. Je veux d'abord remercier André et puis toute son équipe qui a bien voulu m'inviter pour partager avec vous un travail que j'ai commencé il y a fort longtemps. La première fois que je me suis intéressée à la question, nous sommes en 1976. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est à la fois le fruit d'un long parcours, d'une longue réflexion, qui s'est concrétisée ensuite par un travail universitaire à ce sujet. Bon, il était suffisamment de qualité pour que je puisse oser le partager. Hein. Encore, hein, ça a été un grand moment pour moi, parce que c'était l'aboutissement de ce long parcours de questionnement. Et donc, je vous le dis pour que vous sachiez que c'est pas un effet de mode, c'est pas arrivé tardivement. Donc l'idée c'est de partager avec vous cette longue réflexion qui m'a aussi emmenée personnellement à des transformations intérieures, à des compréhensions, à des partages. J'ai fait des tests, pendant mes hypothèses, je les ai testées au milieu antillais et hors aussi. Et puis ensuite, la première chose que j'ai faite, après les avoir bien testées, c'est d'organiser le développement personnel pour les Antillais à Paris. Voilà, ça a été un cadre ou un laboratoire ensuite pour continuer. Et jusqu'à l'année dernière, je le faisais encore. Donc, je vais essayer de partager avec vous, voilà, ce que j'en ai tiré de ce travail très très long et parfois avec des moments douloureux aussi. Bon. Bien. Et puis, ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est pour ça que je te remercie vraiment beaucoup, c'est que derrière ça, mon but, c'est toujours d'essayer de récupérer ce que Dieu a prévu pour nous. Chaque fois, tout au long de mes trois rencontres, ce que je vais développer, eh bien, la base de ces éléments que de compréhension que je vais partager avec vous, c'est pour vous permettre de récupérer ce que Dieu a prévu pour l'humain. Ça sera toujours mon but. D'accord? Et puis, quoi que je dise, ce sera toujours de la bienveillance. Ce serait dommage de le prendre comme une critique. C'est plutôt, je vais vous faire un descriptif, l'état des lieux, le vécu, voilà. Et l'idée, au bout de ce chemin, peu à peu, c'est vous donner des billes concrètes, pour vraiment des choses concrètes, pour vous aider, d'accord, à cheminer et à modifier ce que vous avez envie de modifier, à comprendre ce que vous avez à comprendre. Et chacun prendra pour lui-même les choses là où il en est. Il n'y a pas d'autres contrats dans ce partage, que chacun prend là où il en est, d'accord? Bien. Je vais, la semaine prochaine, je m'en vais aux Antilles. J'y vais depuis de nombreuses années, je vais faire de la formation là-bas. Et la conférence à porter, je fais entre deux semaines de formation, j'ai quand même réussi à casser des conférences sur la transmission entre les générations, pourquoi certaines choses se répètent. Alors je ferai aussi avec vous, pourquoi certaines choses se répètent entre les générations. Ça marche? Ah, bien. Donc, voilà, j'essaierai de couvrir un petit peu les choses, en sachant que on pourrait dire beaucoup de choses, mais j'essaierai d'aller à l'essentiel pour vous permettre de, voilà, comprendre les choses. Alors, voilà comment je vais un peu faire ce soir et voilà ce qu'on va faire. D'abord, je vais replacer la culture antillaise dans son contexte historique et culturel. À partir en prenant un point de départ et une réalité psychologique, et que tout le monde, il y a un consensus dessus, c'est admis que les conditions de naissance d'un enfant va influencer son développement. D'accord? Eh bien, les conditions de naissance d'un groupe va influencer aussi son développement. Dans la Bible, on a le peuple d'Israël, les conditions de la naissance du peuple, d'accord, va influencer son développement. On est d'accord? Donc, pour la Caraïbe, les conditions de la naissance va influencer aussi son développement. Pas entièrement, on sait très bien qu'il y a une part d'influence, mais il y a une part de remaniement tout au long du cours de la vie de l'individu. Ça, sinon, ce serait un déterminisme, qu'il n'y aurait pas d'évolution. C'est-à-dire, on est né d'une certaine manière, une situation, et puis on s'en sortirait jamais. Ce n'est pas vrai non plus, hein. Je suis entre de ces deux pôles à d'équilibre. D'accord? Certes, il y a une influence, mais cette influence, c'est vrai qu'elle est partielle, mais il y a tout ce qui est remanié entre temps dans le temps. Par les individus, par tout ça. Donc, quand j'en parle, je tiens compte des deux aspects, hein. Bien. En France, on connaît les Caraïbes comme un paradis. Voilà l'image de la publicité. Encore aujourd'hui, les plages, les cocotiers, les machins, on va faire bronzette. Hein? Je parle de représentation. Je dis pas que ce n'est pas vrai. Ça est vrai aussi. Parce que j'ai une amie allemande depuis longtemps. Et quand je l'avais invitée à l'époque, quand j'habitais là-bas, elle me disait, oh là là, j'ai cru que la carte postale avait été truquée. Elle avait sa carte postale dans la main, celle que je lui avais envoyée une des cartes que je lui avais envoyées, hein. Et elle était là au bord de la mer en me disant, ah ben oui, c'est pareil, hein, c'est pareil. Donc je comprends que ça crée de l'émerveillement. Hein, c'est vrai que ce sont des endroits très beaux. Bon, quand on parle des Antilles, pour nous, en France, il y a la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, et puis on connaît pas très bien toute l'arc. Mais chez nous, on appelle ça l'arc antillais, c'est-à-dire ça on commence à la Floride, au niveau de la Floride, et on va jusqu'au Venezuela avec ça. Donc ça fait énormément d'îles, d'accord? Et la particularité, ce que ces îles ont en commun, c'est une histoire douloureuse, hein, qui a un effet traumatique, d'accord? C'est pour cela qu'on se sent différent tout en étant proche. Et très souvent, nous partageons aussi une langue commune qui est le créole. D'accord? Partout où il y a eu l'esclavage, il y a des créoles. C'est intéressant parce que les linguistes s'intéressent à la langue créole pour étudier la naissance d'une langue. Bon, ça, j'ai fait ça un peu avant. Je me suis demandé que devenait la langue maternelle quand on partait ailleurs, vivre ailleurs, en exil, quand on s'expatriait. Est-ce qu'on la perdait? Est-ce qu'il y avait quelque chose de la transmission pour les enfants? Même si on va, eh bien oui, elle n'est pas perdue. Elle réapparaît un peu comme un ruisseau qui coule et puis qui disparaît là et qui réapparaît plus loin. Hein, on voit, voilà. Eh bien, donc la langue maternelle non plus n'est pas perdue. D'accord, elle chemine dans la vie inconsciente. Et après, j'ai d'abord fait la question de la langue et ensuite je suis passée un peu à la question de la famille. Voilà, un peu pour vous donner un petit peu le cadre. Donc aujourd'hui, le cadre culturel et socioculturel. Et puis, je ferai des sauts dans le temps. Et ensuite, on va voir, ce que j'aimerais voir avec vous, c'est les traces aujourd'hui, les conséquences. Et on va essayer, je vais démarrer dans des territoires comme la famille, l'éducation de la fille, du garçon. Et surtout, je vais seulement ébaucher, et je vais développer la prochaine fois, la problématique du lien. Avec ça, quelle est l'influence sur la manière dont on rentre en relation avec les autres et dans le couple, avec nos enfants? Je ne vais pas développer cette fois-ci. Et ensuite, on fera toute une part sur la transmission. Qu'est-ce qui se répète? Et chaque fois, on va essayer, je vais répondre à vos questions, je vais essayer d'illustrer d'exemples concrets, le but étant, bien sûr, de d'éclairer le plus possible par rapport à ça. D'accord? Bien. Alors, tout le monde sait qu'en Amérique, on a eu des Amérindiens. On en a eu aussi, nous. D'accord? Donc, y a aucun point commun entre l'Amérindien et l'Africain. Non. On n'habite pas les mêmes zones du monde géographique. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, dans une zone géographique, on a des Africains alors que c'est si loin? D'accord? Ça s'explique par l'histoire, hein, celle qui va donner et qui va être l'acte de naissance. Et il n'y aurait pas d'Antillais s'il n'y avait pas eu la traite et l'esclavage. Ça n'existe pas. On n'existerait pas. Donc, quand j'en parle, ce n'est pas pour ressasser les choses. C'est pour qu'on soit éclairé et comprendre comment ça s'est passé et les traces encore qu'on porte à cause de la réalité inconsciente. On sait très bien que quand, individuellement, lorsqu'on a un vécu douloureux, imaginons le vécu qu'on a eu à l'âge de 6 ans. Mais à 80 ans, si ça n'a pas, cette blessure n'a pas été traitée, on s'en souvient comme si c'était hier, hein? D'accord? Donc, les questions de ce type, qui sont des traumas, au niveau psychologique, c'est un trauma. Bon. Mais on a aussi ces réalités actuelles. Les personnes qui sont en guerre, les personnes déportées. Et dans la Bible, on va retrouver la même problématique chez Israël, qui a été un esclave en Égypte. D'accord? Donc, quand je vais parler de ça, je vais parler à la fois d'une spécificité, d'une particularité, mais en même temps, je ne vais pas parler de quelque chose qui est comme si c'était la seule fois que ça existe dans l'humanité. D'accord? Parce que le cœur de l'homme est ce qu'il est. Bien. Donc, quand ce qu'on a gardé en Europe, c'est des grandes découvertes. On se dit, allez, quand Christophe Colomb découvre l'Amérique, donc comme elle n'existait pas avant, ils vont le découvrir. Hein. Bon, et on garde tout cet aspect idyllique sans tenir compte de d'autres choses qui se sont passées. Et en particulier, le commerce des individus. fait du commerce. Donc en 2000, en 98, l'ONU va reconnaître, va dire que au nom des ensembles des nations qui l'ont pratiqué européenne, que ce soit les Français, les Portugais, les Espagnols, les Hollandais, les Anglais, oh, ils se sont disputés pour ça. Bon, donc et c'est pour ça que dans la Caraïbe vous aurez des îles qui parlent français, d'autres qui parlent anglais, d'autres qui parlent le néerlandais, d'autres îles qui parlent l'espagnol. Mais avec ça, c'est la langue officielle, mais avec toujours cet arrière-fond de cette langue commune qui est le créole. Et puis il y a Haïti. Ah, Haïti. Aussi. D'accord? Bon, comme je dis, j'ai fait tous mes pèlerinages. Et il y en a des pèlerinages de l'histoire. Et il y a, bien sûr, Gorée, l'île de Gorée, d'où il partait. Il y a aussi alors un lieu très peu connu dans les Vosges, c'est un petit village qui s'appelle Champagné. Je l'ai cherché, je me suis rendu compte que je l'avais oublié, mais la prochaine fois, je pourrai vous apporter les vœux des Champagnés. Les Champagnés, qui, c'est vraiment un petit village, hein, j'y suis allée. Hein. Il faut vraiment vouloir le trouver, hein, tellement qu'il est perdu. Hein, hein. Et dans ce petit village, il y a une école Aimé Césaire, et il y a un musée hein, aussi de la traite, de l'esclavage. Et... Parce que ce village, vraiment un petit un coin paumé, hein, avait la particularité, au moment des cahiers des doléances, vous vous rappelez, hein, Louis XVI. Alors, l'esclavage commence avec Louis XIV, je vais vous lire un peu comment on a mis en place ces choses, mais les Champagnés, eux, quand il y a eu le cahier des doléances avec Louis XVI, ils ont souhaité, d'accord, que l'esclavage soit aboli. Déjà. Et c'est ça qui me plaît, pour ça qu'on en parle. C'est qu'il y a toujours des gens pour dire que le mal ne peut pas être le mal. Or, ce qui m'a intéressé pour ces gens, ils n'étaient jamais allés à Paris, ils n'avaient jamais vu de noir dans leur vie. Mais dans leur église, catholique pourtant, ils connaissaient l'histoire des rois mages. Melchior, Balthazar et Gaspard. Et l'un des deux était noir dans la légende. Donc ils ne comprenaient pas, disent-ils, comment est-ce possible que le fait d'être chrétien et réduire les gens en esclavage, ça ne va pas ensemble. C'est intéressant. Très intéressant pour nous. Il y a toujours des gens qui sont là pour dire ça ne doit pas se faire. Et en 98, l'ONU va reconnaître que la traite est un crime contre l'humanité. Et la France va reconnaître, d'accord, avec la loi Taubira en 2000. Elle est la seule nation européenne à l'avoir fait pour elle-même. Mais il y a très peu de gens qui le savent. Hein. Pourtant, ça a été fait. Cette reconnaissance, d'une part, de son histoire, qui n'est pas forcément agréable, mais qui permet en même temps, de la solder, cette histoire. Hein, pour aller vers autre chose. Je vous ai apporté, alors, le code noir. C'était le manuel de référence de l'époque. Alors, celui que je vous propose est composé de commentaires. Le code lui-même a très peu de pages. Alors, il y a eu deux codes noirs. Le premier pour les Antilles, qui date de 1685. Et le deuxième, c'est le code noir pour la Louisiane, qui date de 1732. C'est intéressant parce que entre les deux codes, il y a eu la révocation de l'édit de Nantes. Et on y trouve trace dans les articles. C'est intéressant aussi. Alors, voilà comment on voyait à l'époque les choses. Et c'est ça qui m'intéresse pour savoir comment la famille va prendre naissance aux Antilles, dans l'arc, dans la Caraïbe, c'est à partir des codes. Les Portugais aussi feront des codes. D'accord? Chacun fera le sien pour organiser la vie des esclaves. Bon. Alors, premièrement, Louis XIV, d'ailleurs, va demander à Colbert d'en faire un premier jet, enfin, le rédiger, et il va préciser une chose. La première chose, c'est, dans son préambule, il faut maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine. C'était très précis. Il n'y pouvait pas avoir d'autres religions. Déjà. Bon. Le but, c'était de régler ce qui concerne l'état et la qualité des esclaves dans les îles, dans nos îles. Et donc, il va, en son article premier, d'accord, et qui date déjà du 23 avril 1615, il dit que soit exécuté dans les îles la chose suivante. Ce faisant, enjoignant à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les juifs qui y sont établis, qui ont établi leur résidence, auxquels, comme nos ennemis déclarés, du nom, le nom, hein, nom, c'est pas le mot nom, mais le nom de famille, hein, qui c'est, le nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans 3 mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation des corps et de biens. Première chose, expulsion des juifs des îles. Deuxième article, tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés, instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Très important. Vous allez voir qu'on va avoir trace. C'est que malgré notre conversion, ou malgré, même si on est né dans les églises évangéliques, on va garder trace au niveau de notre façon de vivre la foi, beaucoup de traces du catholicisme. Et ceux qui font la formation avec moi, quelquefois je leur dis, alors, vous êtes évangélique ou vous êtes catholique? Vous avez vu? Ça va, notre façon de nous représenter Dieu va être influencée par ça, sans qu'on s'en rende compte. Toute la culture antillaise va être influencée par la conception catholique. Et nous allons garder, dans bien des domaines, des traces de cela, sans savoir que ça vient de là. C'est pour ça que je voulais vous faire ce petit détour, hein, pour qu'on se comprenne, hein, d'accord, qu'on se comprenne. C'est tout. Bon, le temps des... C'est plus le temps hein, au règlement de compte, c'est passé déjà, puisque ça a été reconnu. Donc... Nous enjoignons aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés d'en avertir le gouverneur et intendant des dites îles dans 8 ans au plus tard, à peine d'amende arbitraire, lesquels donneront des ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable. Bien sûr, l'instruction religieuse se limitait à quelques rudiments. Parce qu'il ne faut pas oublier que les esclaves étaient vendus d'île en île. Par exemple, un esclave à cette époque coûtait moins cher en Guadeloupe qu'à Sainte-Lucie, qui est une île maintenant anglophone, qui se trouve au sud de la Martinique, qui est très proche. Les Martiniquais y vont très régulièrement parce qu'elles sont très proches. Et très souvent, la particularité, c'est de voir les autres îles, on les voit. La Dominique est très proche de la Guadeloupe et on a cet échange. Voilà. Et malgré eux, ils ont gardé la langue anglaise comme langue principale et nous la langue française. Mais quand on se rencontre, on utilise le créole et on se comprend bien. D'accord? Donc, il y a aussi la proximité des îles. Donc, vous avez Haïti, vous avez la République dominicaine qui en fait partie. Merci. Voilà, pour vous donner un peu une idée. Mais... ce qui m'intéresse le plus, ce sont les articles qui vont instituer le couple et la famille. Qui vont marquer un peu notre fonctionnement et vont donner un modèle familial. Et on va le retrouver aussi aux États-Unis, chez les populations afro-américaines aussi. qui ont le même vécu. Et on va avoir une culture fondée sur ce qu'on appelle la matrifocalité. La matrifocalité, qui n'est pas la matrilinéalité. On verra la différence. Ça va donner, ces articles vont déboucher sur une société, sur une façon de vivre ensemble très matrifocalité. Ça marche? Donc du coup, la question de la place de l'homme, et vous avez vu, va se poser. Puisque les articles vont instituer les choses au détriment de la fonction paternelle. Ça va? C'est OK pour nous tout jusque-là? Bien. Alors, ça, ce sont les articles 8 à 13 du Code. Bon. Alors, article 8. Donc, tous les articles précédents, c'est pour reprendre... Ah, quand même, il faut que je vous donne l'article 5. Parce que je vous ai parlé des Juifs. L'article 5. Défendons à nos sujets de la religion prétendue réformée. D'accord? La réforme, hein? D'apporter aucun trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire. Autrement dit, on a vu, pas de juifs, et ici, pas de protestants. La réforme, c'est ça. Donc la réforme n'est pas passée aux Antilles. C'est pour cela qu'on a gardé autant de traces du catholicisme. Parce que l'article 5 du Code interdit la religion de la réforme, c'est-à-dire celle de Luther, et qui va donner le protestantisme, voilà tout ça, et qui va aboutir plus tard à nos églises évangéliques. Donc pas de... Hein? Et d'ailleurs, il faut les empêcher parce qu'ils vont troubler les gens. Ils vont troubler l'ordre public, ils vont troubler les maîtres, ils vont troubler les esclaves. Donc, pas du tout. C'est Louis XIV. Chaque fois qu'on parle de Louis XIV, on parle toujours du château de Versailles. Et on ne parle pas de ces choses-là. Hein. De Versailles, oui. Oui, on a. Oui, quand même. Mais on n'a pas appris qu'il a fait le code. D'accord? Qu'il a dicté ce code. C'est ce que je voulais dire. Mais oui, on sait quand même qu'il y est pour quelque chose, pour les dieux. Hein, on le sait, au moins ça. Bien. Donc, pas de protestants. Alors, voilà. Bon. Donc, l'institution du dimanche, etc. Bon. Article 8. Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine, incapables de contracter à l'avenir aucun mariage valable. Déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions que nous voulons être tenus et réputons pour vrai concubinage. Vous y avez compris quelque chose? Il faut que je vous explique. Eh bien, autrement dit, cet article reprécise que si les mariages qui pourraient exister de type protestant, les enfants qui naîtront, le mariage ne sera pas valable, considéré comme illégitime, comme des bâtards. Bien. Donc, il tient à son catholicisme, hein, et apostolique romaine. Hein. Il y tient beaucoup, le roi soleil. Bon. Article 9. Voilà. Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec leur esclave, ensemble les maîtres qui les auront souffert, seront chacun condamnés à une amende de 2000 livres de sucre. S'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu les 10 enfants, voulant qu'en outre l'amende y soit privée de l'esclave et des enfants, et qu'elle lui soit confisquée au profit de l'hôpital sans jamais pouvoir être affranchie. Alors, je vous explique. Il dit que les maîtres ne peuvent pas épouser les esclaves. Si les enfants sont dans ces cas-là, les enfants sont confisqués et confiés à l'hôpital public. Donc, comme il n'y aura pas possibilité de mariage, il ne pourra avoir que du viol, que de l'abus. Et ma grand-mère a des souvenirs. Ça, c'est intéressant. Parce que là aussi, il y a des gens qui ont eu des souvenirs. Ma grand-mère avait des souvenirs parce qu'elle était née en 1900. Et sa mère lui a raconté comment était née une de ses cousines et tout le reste qui était de ce type-là. Les enfants n'avaient pas de valeur hein, s'ils étaient nés de cette manière-là. Bon. Et non seulement on payait une amende, et en plus, ils étaient confisqués à l'hôpital. Bon. On peut imaginer que ça s'est bien produit. Et puis, ça se limite quand même. Lorsque l'homme libre, qui n'était point marié à une autre personne, durant son concubinage avec son esclave, épousera les formes observées par l'Église, sa dite esclave, qui sera affranchie par ce moyen, et les esclaves rendus libres et légitimes. Autrement dit, ça pouvait être une libération. On perdait son statut d'esclave si, quand on était femme, on épousait un homme libre. Mais ce homme libre était un maître ou un blanc. Vous avez compris, ça va laisser comme trace, par chez certaines personnes, la préoccupation d'éclaircir la peau. Hein? Vous avez vu? Ça va lisse parce que ça va donner un statut particulier. Ça m'affranchit. Ça me sort de ma situation d'esclave. En sachant que l'esclave était un bien meuble. C'était pas une personne. Donc c'était cédé comme la chaise, la terre. Je vous passe un peu de tous les articles, mais voilà. Ne pensez pas que le statut de l'esclave était un statut d'individu inférieur. Ça, c'est la colonisation qu'on va l'obtenir. Au départ, tu n'es pas une personne. Tu es un meuble, un bien meuble, transmis, donc pouvant être vendu au plus offrant en fonction de... Et les îles étant très proches, faisant marché entre les îles, eh bien... On revendait là où sur l'île, ça coûtait plus cher. Bien. Je ne vais pas vous rendre faire déprimer quand même. Hein. Ce n'est pas mon but. On est d'accord, hein? Bon, je vous ai dit qu'il faut qu'on regarde ça par la lunette de la connaissance qu'on a du Seigneur. Hein, donc, okay, hein, il y a encore des causes aujourd'hui comme ça qui doivent nous mobiliser pour... il faut le prendre comme ça quand même. Hein. J'ai pas envie que demain matin, que tout le monde déprime. C'est pas mon but. Hein. D'accord? Bon, allez, je vais quand même vous. Alors, autre chose, un autre article. Bon, je vous passe un peu les choses. Hein. Bon, j'ai assez fait de lecture. Mais il y a plusieurs articles qui vont nous influencer. Bon, c'est le statut de l'enfant. Si la mère est libre, l'enfant qui naît, même si le père est esclave, l'enfant est libre, naît libre. Mais l'inverse n'est pas vrai. Si la mère est esclave et que le père est libre, l'enfant naît esclave. A un statut d'esclave. Autrement dit, on a lié le statut de la mère au statut des enfants. D'où, chez les femmes, ça est resté la toute-puissance sur les enfants et l'exclusion du paternel, la mise à distance du paternel. Ça va laisser une trace qui est la matrifocalité, c'est-à-dire que, et puis on va construire une représentation mythique à partir de ces articles qui vont instituer. Hein, la famille, le couple, bon, je vous dis la famille déjà, c'est, alors vous connaissez, les infirmiers connaissent bien, la fameuse mère Potomitan.
automita. Ah, mais vous allez... j'espère qu'à la fin de tout ça, vous n'allez pas m'en vouloir, parce que la mère potomitan, je vais vous dire ce qu'elle est sur le plan psychologique, combien c'est un problème. Alors là, il faut la déplacer, cette mère potomitan. D'accord ? Elle est devenue mère potomitan à cause de ces articles que je vous ai lus. Ensuite, quand les esclaves voulaient se marier, il fallait avoir l'autorisation des maîtres. Donc, lorsque le maître perdait un esclave, parce qu'il se mariait, il allait vivre sur la plantation de l'autre, le maître qui avait cet esclave, enfin, qui perdait l'esclave, devait être dédommagé par l'autre maître. Alors, d'imagine bien, pour des gens qui ne sont pas de meubles, hein, qui sont que des meubles, qui ne sont même pas des personnes, on ne va pas dépenser de l'argent pour ça. D'où la précarité du couple. Le couple ne pouvait exister longtemps dans la mesure où, déjà pour faire couple, il fallait l'autorisation des deux maîtres et que l'un des deux maîtres soit dédommagé financièrement de la perte de son esclave. Et bon, il y a bien toujours des gens qui ont des bons cœurs, le bon cœur quand même, hein, d'accord, c'est sûr. Bon, mais malgré tout, ça va créer pour le couple une précarité d'existence. Une précarité d'existence pour le couple, une précarité d'existence dans l'amour, dans l'attachement. On va poser pourquoi je vais vous en parler la prochaine fois, la problématique de l'attachement. Pourquoi s'attacher alors qu'on sait qu'à tout moment, quelqu'un d'autre peut décider de défaire le lien affectif. On va prendre l'habitude de s'en protéger. Alors, j'ai lu beaucoup de... parce que beaucoup d'écrits à ce sujet, et il y a un prêtre qui témoignait, qui essayait de convaincre cette esclave de se marier. Et elle disait, mais non, mais il est hors de question que je me marie, quand même. Elle dit, mais moi, avec ce que je sais qui va devenir, hein, moi, je préfère mourir plutôt que de me marier. Excusez-moi, je vais essayer de vous le retrouver. Parce que elle le dit clairement, elle n'en veut pas. Elle dit, même si vous insistez, même si on le fait, le mariage catholique, j'en veux pas. Parce que moi, je ne veux pas être ni séparée de mes enfants, ni de la personne que j'aime. Et certaines femmes aller jusqu'à tuer les enfants pour qu'ils ne soient pas à leur tour esclaves. Donc on est en plein trauma. Bon, ça émerge en pleine situation traumatique. C'est comme les enfants qui vivent la guerre au Proche-Orient, là, d'accord, hein, qui sont nés dans la guerre, qui n'ont connu que la guerre, ça va laisser des traces aussi. On le sait, ça. Et ensuite, ça a duré quand même longtemps. Entre le début de la traite, 16e siècle, et l'abolition de l'esclavage, 19e, calculez un peu. Donc, comme en plus ça a duré très longtemps, ça va s'ancrer chez les gens comme une façon d'être. Quand ça dure une semaine, un mois, une année, déjà une année, on commence à prendre des habitudes, à trouver des stratégies d'adaptation. Pour survivre, ce sont des stratégies de survie. On n'est plus dans la logique de la vie, on est dans la logique de la survie. Donc on va être, chez nous, une des traces qu'on va avoir, c'est la conscience de la précarité de la vie et la précarité des liens. Et on se dit, de toute façon, les choses ont une fin, c'est même pas la peine de commencer à s'engager dans les liens. Avec un renforcement de la question de la mort. La mort qui sera, elle sera quelque chose qui est habituel. Comme les enfants qui voient les soldats tomber, là, toutes ces guerres qui durent interminablement depuis, on égrène les chiffres, et moi je me dis, mais que vont devenir ces enfants? Ces jeunes adultes. Avec le trauma, il n'y a pas de vie possible. On ne peut pas se projeter dans un futur. Hein. Ils ne vivent que le présent. Eh bien, chez nous, on va avoir cette question-là du rapport au temps qui va s'installer. le temps n'est que du présent. On a du mal à se projeter dans un futur. D'ailleurs, on a plein d'expressions créoles qui le reflètent. D'accord ? À dans notre soleil. C'est-à-dire, à la prochaine rencontre, on ne sait même pas quand est-ce qu'elle aura lieu. Bon. Là, nous jouons nous contrer. Ah, c'est même pas la peine de. Voilà. Il n'y a pas de rendez-vous. Vous comprenez ? Pourquoi je fais le détour ? Parce qu'on trouve encore trace de cela des siècles après, de notre façon de penser le monde, de gérer le quotidien et de gérer les liens. D'ailleurs, si vous allez aux Antilles, et même les Antillais vous diront, demain s'il plaît à Dieu, demain si Dieu veut, demain si Dieu veut. Hein? Le demain si incertain. D'accord ? Et on te dira, demain ne t'appartient pas, hein? Ça appartient à Dieu. Hein? Mais c'est de la, c'est du construit. C'est du construit. Ça a une histoire. C'est des stratégies de survie. On va garder, sous des formes très variées, des traces de cette réalité, de cette précarité du lien, de cette incertitude, du fait que ça dépend de l'autre, mon devenir dépend de l'autre. Et donc, nos liens seront perçus comme incertains. Alors, par exemple, et même si je vais les développer après, hein, la prochaine fois, par exemple, certains vous diront, je me marie, mais je mets déjà l'argent du divorce là, hein. Non ? Vous avez déjà entendu ça ? On se marie, mais on prépare l'argent du divorce. Ce sont des expressions qui viennent de cette précarité de vie. Le fait que les liens, dès le départ, les liens sont précaires. Et pour couronner le tout, un des articles spécifie l'enfant. Alors, qui a autorité sur l'enfant ? Bonne question, qui naît ? S'il naît esclave en particulier, s'il naît libre, on a dit, le sort, son sort est celui de sa mère. Mais s'il naît esclave, à qui appartient cet enfant qui a autorité ? Eh bien, la mère et le maître, qui est le père de l'enfant. Il n'est pas le père, même s'il n'est pas le père biologique. Mais l'enfant, au niveau de l'autorité, c'est sa mère et le maître de la plantation. Le maître de l'esclave, qui dispose des enfants. Mais le père biologique, il devient quoi ? Comment peut-il être père, hein, dites-moi ? Puisque la paternité lui est enlevée d'emblée, par article de loi. Donc, il fait naître des enfants qui ne sont pas les siens. Et ça va laisser cette trace où beaucoup d'hommes ne se sentent pas concernés par la paternité. Mais ça a duré à 4 siècles quand même. La chose ne peut pas durer aussi longtemps sans que ça ne laisse des traces. Sans qu'on développe une façon d'être, sans que ça ne construise et que ça ne profondément une manière d'être. Et comme toujours, quand on ne connaît pas l'origine de quelque chose, la chose continue à agir sans qu'on ait prise là-dessus. Il faut qu'on comprenne d'où ça vient pour corriger. Alors, il y a quand même du progrès. Parce que quand je vais aux Antilles, j'y vais depuis... plusieurs fois l'an, au moins 5 fois l'an, depuis maintenant 14 ans. Donc, j'y vais toutes les années. Là, je vais partir, je vais repartir en juillet, je vais repartir à Toussaint. Enfin, j'y vais assez régulièrement. Et j'aime aller dans un lieu qui est le supermarché. J'adore aller au supermarché. Bon, maintenant, j'achète des, je fais des courses parce qu'au départ, les vigiles pensaient que j'étais venue pour chaparder. Et je m'étais rendu compte qu'ils me suivaient à travers les rayons. Alors que moi, je me baladais pour observer. D'accord? Donc, quand j'ai compris la méprise, bon, je me suis dit quand même, il faut acheter quelque chose parce que là. Pourquoi j'y allais? Parce que c'est un lieu où allaient essentiellement les femmes avec leurs enfants. Mère-enfant allait faire les courses. Et petit à petit, j'ai vu arriver au supermarché les pères avec les hommes avec leurs femmes, les pères avec les enfants. J'ai vu arriver des pères tout seuls. Enfin bref, c'est intéressant. Et il y a ce que je vous dis de la tendance. Mais il y a en même temps quelque chose, on va voir, de changement qui s'est peu à peu engagé par bon sens. Et le bon sens est venu de la souffrance. On en a assez de souffrir en tant qu'enfant de soi-même, d'avoir toujours qu'une seule figure parentale qui fonctionne. Parce que ça laisse des traces chez les enfants. Et petit à petit, la souffrance va emmener à un questionnement. Même si, en se disant, quand même, il faut faire quelque chose. Il faut peut-être changer les choses. D'accord? Mais l'inconvénient, c'est que comme je ne comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas où il faut appuyer et où il faut porter les efforts pour le changement. D'accord? Je change, c'est vrai, pas certaines choses. Mais parfois, je ne change pas les choses, la chose centrale. C'est-à-dire les fonctions parentales. Comment faire fonctionner le paternel et le maternel, dissociés du mari-femme. Très difficile. Certains hommes, quand ils divorcent de leur femme, divorcent aussi de leurs enfants. Ils laissent ses enfants derrière. Mais ces phénomènes qu'on voit ont une histoire. Ces phénomènes ont une histoire. Il faut la comprendre pour la corriger. C'est ça mon but. Hein, d'accord. Moi, je trouve qu'on n'a pas de raison de se culpabiliser hein, quand même. Hein. Tout a été fait pour que les choses dysfonctionnent. Parce qu'on est quand même face à un crime contre l'humanité. Et un crime, ça laisse toujours des traces quand même. Bien. Et puis, je me disais que, comment dire, ça m'intéresse d'autant plus de vous en parler que on a fini par croire. Parce que ça a été dit pour justifier. Ça, c'est la partie pas très glorieuse de l'Église hein, qui va justifier à la fois le code, mais la situation de l'esclavage en ancrant la légitimité de la situation en se référant au fils de Noé. Nous serions les descendants de Cham, le fils maudit. D'accord, hein? Pour bien ancrer la chose, on aura recours au spirituel. Pour dire que Dieu est d'accord. Que c'est le désir de Dieu. La preuve, on peut retrouver dans la Bible la justification. Mais le problème, il faut m'expliquer comment est-ce possible que Cham ait descendant son corps alors que c'est un être à partir de la quatrième génération. Si on pouvait être le descendant de quelqu'un, c'est peut-être de Japhet qui veut dire le bronzé, peut-être. Mais c'est vrai, et il y a encore des gens. Et ça va se traduire par l'idée que c'est normal que tu souffres parce que tu es noir et tu es fait pour souffrir. Donc il y aurait eu un partage dans l'humanité. Il aurait choisi ceux qui devaient prospérer et ceux qui devaient souffrir. Ça, en tout cas, ça ne ressemble pas du tout à notre Dieu. En tout cas, celui en qui j'ai mis ma confiance. Ça ne... Hein? C'est pas possible. Dans ma tête, c'est pas possible. Bon. Sinon, j'y renonce bien vite. Hein? Le Dieu révélé en Christ a dit que pour tous ses enfants et pour l'ensemble de l'humanité, c'est des projets de paix, de bonheur, pour nous donner un avenir et une espérance. Alors ça, quand même, c'est un peu pervers sur les bords quand même, reconnaissez. D'avoir eu recours dans l'Église à la justification du mal par ce biais-là. Et il y en a qui croient, il y a des Antillais qui croient encore à ça, hein. Mais c'est un mensonge éhonté. N'empêche, ça va laisser des traces dans la façon de se percevoir, dans la façon de se projeter dans le futur, dans la façon de croire à la réussite, de la façon de croire à sa place dans ce monde, dans un monde présent et pour nos enfants. Ça va influencer, sans qu'on se rende compte, eh bien, notre positionnement par rapport à nos enfants, par rapport au couple et tout le reste. Et pour compenser ça, on va développer des prières magiques. Donc, on sera beaucoup dans le magico-religieux, donc à la fois pour construire le couple. Il y aura la quête incessante de la volonté de Dieu. Et puis, oui, une spiritualité un peu magique. Ce qui va être embêtant. Parce que tout ce qui se passera en bon comme mauvais, c'est ce que Dieu l'aura voulu. Dieu sera d'accord. Il suffira seulement de prier pour se soulager un peu des souffrances. Mais la souffrance, elle est là. Nous sommes prédestinés à souffrir. D'ailleurs, va se développer une idée que quand tu connais un peu de réussite, il y en a qui connaissent la chose, je vois sourire. Il ne faut pas trop te réjouir trop vite. Parce que le malheur suivra obligatoirement. Donc, on ne se réjouit pas pleinement des mêmes des choses en tant que chrétien, hein, que Dieu nous donne. Alors là, on se réjouit du bout des lèvres, des exaucements. Parce que des fois qu'on se réjouirait trop haut, Dieu passerait derrière et nous lance, enlèverait la bénédiction pour nous donner un peu de malédiction. Mais c'est quoi ce Dieu-là, dites-moi? C'est quoi ce sadique? Mais c'est pas le Dieu révélé, celui-là. Ce n'est pas le Dieu révélé. Et vous avez vu tout ce contre ces croyances qui traînent dans nos têtes, contre quoi il faudra combattre. Et vraiment travailler à détruire ces mensonges. Mais ils sont bien ancrés, parce qu'ils sont transmis de génération en génération. Tout le discours parental, tout le discours entre nous, porte là-dessus. De génération en génération. Oui. Mais oui, mais tu retrouves la trace des cathos chez nous. Puisqu'il fallait qu'on soit éduqué catholique, romaine, apostolique. C'est pourquoi j'ai dit que même si on est évangélique, on a beaucoup de traces du catholicisme, mais c'est tout à fait juste. La souffrance qui est une vertu. Plus tu souffres, plus tu vas gagner le ciel. Plus tu souffres, tu seras en bonne place devant le Seigneur. Eh oui, on va avoir cette façon, comme il fait remarquer, cette conception très catholique des choses. Et notre conversion ne va pas parce qu'on n'en a pas conscience. La conversion ne va pas transformer tout. On va seulement changer le Dieu punitif en un Dieu accueillant. Voilà ce qui va changer. Mais tout le rituel, le rapport à Dieu va être encore très marqué par ces choses-là. Tu confirmes, hein? J'y ai passé du temps à nous observer. J'ai passé du temps à m'observer moi-même. Et comme M. Poignant pensait, il a fallu faire ce gros travail de désaliénation. Il faut se désaliéner. Et pourtant, 1848, fin de l'esclavage officiel. D'accord? Un siècle de colonisation. Et pour ne pas redonner des terres aux esclaves, on a fait venir les Indiens de Pondichéry. On les a forcés maintenant à venir. Pour leur donner des terres, on les a obligés. Ils n'avaient pas le choix. Eux, c'était des déportés. Alors, ils devaient servir 3 ans, après quoi, ils pouvaient repartir. Et ils avaient le choix de repartir ou de rester. Bon, ils étaient quand même des personnes. Pour ça que, dans ces îles, vous avez des communautés hindoues qui viennent de l'Inde. Parce que vous avez, à l'époque, un Pondichéry, Madras, tout ça était un protectorat français. Quand les hommes veulent faire le mal, hein, comme le dit Jésus, ils sont vraiment ingénieux au mal. Hein. Ah, n'est-ce pas, hein? Parce que je vous le dis ainsi, parce que ce serait une erreur, me semble-t-il, à situer la chose, pour nous qui connaissons le Seigneur, seulement à une question de couleur de peau. Nous sommes en même temps face au mal. Nous sommes enfin en même temps face aux pratiques des ténèbres. Alors ce serait dommage qu'on puisse restreindre la chose seulement à une question de couleur, pour nous qui connaissons le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, ils font pas mieux, hein? Ils font pas mieux aujourd'hui. Donc c'est pour ça que ça nous concerne. Ça nous concerne tous en tant que chrétiens à cause de ça. Alors si pour faire juste disons, c'est l'histoire des Antillais, c'est pas les nôtres, nous, ce serait dommage. Parce que ça nous concerne en tant que chrétiens, de voir comment l'homme, ce qu'il peut faire pour détruire et comment ça peut garder des traces. Le peuple d'Israël aussi a gardé des traces de son histoire, de l'esclavage. Regardez comment ils ont eu du mal à se déprendre. Ils étaient à peine sortis, traversés. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Mais voilà le Dieu qui mange devant toi. C'était le Dieu d'Égypte. Et puis il y en a qui ont râlé beaucoup, ils ne sont pas rentrés. C'est des situations qui marquent les êtres humains. Parce que ce sont des situations de violence. Et ce qui touche à la représentation de soi, mais surtout qui touche à l'idée de la créature de Dieu, qui touche à la création de Dieu. Ce n'est pas une question, en tout cas moi je ne veux pas, je n'ai jamais voulu en faire une chose, traiter la chose de cette manière-là. J'ai toujours voulu la traiter avec cet axe, c'est le mal et c'est dans le cœur de l'homme, ce n'est pas la couleur de la peau qui le fait. Et tous nos systèmes organisés, hein, quand on fait des choses, ce n'est pas terrible. Alors bien sûr, j'ai zoomé un peu pour nous, pour voir les effets pour nous. Je vous ai donné, quelques éléments. Mais franchement, ça doit aussi nous mobiliser pour devenir militants pour la justice quand même. En dehors d'eux. Du fait que ça nous concerne directement. Mais ça nous concerne aussi sur un autre plan. Ça doit nous concerner, me semble-t-il. Bien. Donc, l'invention de l'idéologie religieuse, vous rappelez, c'est le chapitre 9 hein, du livre de la Genèse. Donc, je l'avais cité d'ailleurs dans mon écrit, dans mon travail. D'accord, les trois fils du déluge. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment va évoluer ce trauma. Derrière, alors, avant, par rapport à ça, derrière cette question de l'esclavage, de la colonisation, de l'impérialisme, toutes ces choses, se pose une question fondamentale. C'est comment nous gérons l'altérité. Comment on accepte le principe de la différence. C'est celui que Dieu va instaurer dès Genèse. Dieu va bénir la différence. D'abord, mâle et femelle et les filles, homme et femme et les filles. Et on s'est rendu compte, quand les gens ne savent pas gérer cette différence de base, ils ne savent gérer aucune autre. Ils traitent alors toutes les différences par la violence et l'exclusion, de quelque nature qu'elle soit. Et quand on reprend cette période dans la, en France, quel était le rapport entre les hommes et les femmes, on retrouve la même chose. Alors c'est intéressant, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la controverse de Valladolid. Ah, laissez-moi vous en parler un peu. Parce que c'est une question qui s'est posée par rapport à l'altérité. Comment la chair, hein, d'accord ? Qui est une conception. Valladolid, c'est une ville en Espagne. Donc les Portugais, ça se passe en 1550. D'accord ? Bien. La question qui se pose, c'est qui est l'autre ? C'est la période de la rencontre de la différence. Hein ? Et l'autre différent, donc les Amérindiens, sont-ils humains comme nous ? C'est voilà la question centrale. Bon. Alors, à Valladolid, il y a deux questions qui se posent. C'est, a-t-on le droit d'occuper le territoire de l'autre, des Amérindiens, et de prendre leur terre comme si c'était les nôtres? Et sont-ils des êtres humains comme nous? Bien. Deux personnages se confrontent. Hein. Ici, vous avez, d'une part, un Dominicain qui s'appelle Bartolomé de las Casas. Bien. Et de l'autre, vous avez le théologien Juan Ginés de Sepúlveda. Bon. Donc, Las Casas prend la défense des Amérindiens parce qu'il n'approuve pas la brutalité des Espagnols envers eux. Il les considère comme des êtres libres. Alors que le théologien, vous imaginez quand même, vous croyez que c'est la place des chrétiens, là, pour dire des bêtises pareilles? Laissez ça pour des païens quand même. Bon. Quand même, on n'a pas toujours fait des choses glorieuses. Hein. L'Église n'est pas toujours... Je veux bien qu'on discute de la chose, mais il ne devrait même pas avoir grande discussion, puisqu'ici, ce sont des créatures de Dieu. On croit en ce Dieu créateur. La chose devrait être réglée. On ne devrait pas avoir deux parties qui se confondent. D'accord ? Le théologien, lui, pense que... il est le défenseur de l'Empire espagnol. Donc, le théologien est politicien. Il est défenseur de l'expansion de l'Empire espagnol. Donc, il considère alors que on a le droit de prendre la terre de l'autre, puisqu'on arrive, et en plus, hein, on a le droit de conquête. C'est ce qu'il a appelé le droit de conquête. C'est juste. Et les peuples indigènes sont primitifs. Donc, ils peuvent être dominés et mis en servitude. Je me dis parfois, Seigneur, qu'est-ce que tu pensais là-haut quand tu as entendu ces choses pareilles avec ton intention de faire une belle création? Eh oui, je suis persuadée qu'il n'a pas été indifférent à ça. C'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, c'est cette pensée du théologien qui va l'emporter. Donc, les terres appartiennent aux Espagnols, on les extermine. Et on va reporter la même chose pour les Américains vont refaire la même chose. Alors eux, avec la particularité, ils vont se comparer au peuple d'Israël, qui, sorti d'Égypte, vont conquérir Canaan. Donc ils n'ont pas de repentance à avoir pour le massacre des Amérindiens. Ça nous pose des problèmes quand même, hein, à mon avis. Bon, mais sait-on jamais, hein, il y en a qui trouvent dans les évangiles un peu de tout. Pourquoi pas? Donc ici, on a la négation de l'autre, hein, la négation que les indigènes soient des êtres humains. Je vous cite, hein. Négation de leur culture, de leur religion, de leurs mœurs. Leur ridicule, l'autodestruction est imposée. Et donc, on va considérer que les Indiens, après les avoir soumis à des expériences atroces, en les brûlant, pour vérifier s'ils pleurent, comme nous. D'accord, hein? Ok. Conclusion, ils sont bien des personnes, un peu au-dessus, juste en dessous des femmes, quand même, il ne fallait pas quand même mettre les Indiens au-dessus des femmes européennes. Hein. Elles étaient un petit peu avant. Hein? Les Indiens, et au bas des jeunes, les Noirs qui n'ont pas d'âme. Tout le monde est personne. Voilà ce qui va se jouer à Valladolid. La question, c'est comment on gère l'altérité, comment on gère la différence. La question, c'est par la domination, la servitude. On voit poindre déjà le péché de Genèse après la chute. Où Dieu montre que le lien va être géré par la domination. Il y a quelque chose de ça qui est passé par là. Mais ça n'excuse pas, parce que quand même, un théologien quand même, il doit connaître les textes un peu mieux que vous et moi quand même. Hein. Mais il est au service de l'Empire, de l'argent. Et ça convient, Jésus le dit, on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Ce n'est pas possible. Le pouvoir de l'argent, ce n'est pas possible. Voilà ce qui s'est passé à Valladolid. Et on s'est rendu compte que, à partir de ça, on va développer en Occident une figure de l'autre qui va être différente. Et on va chaque fois évoquer en Occident l'image de l'autre, tout souvent négatif. Alors on aura tout à tour géré l'altérité, le juif. Il est mauvais parce qu'il refuse de se convertir au christianisme. On aura le sarrasin, c'est-à-dire ce qui va donner l'islam, et puis ainsi de suite. C'est pas récent, ça, cette histoire-là. À partir de Valladolid, on va modifier le rapport entre les autres différents et tous les autres différents. Ça ne va pas se cantonner ici. Il y aura la femme, on va donc installer une hiérarchie par rapport à ça. Bon. Bien. Alors, je ne vais quand même pas vous assommer de tout ce soir. Allez, hop. On va, je vais quand même vous dire, parler de la matrifocalité. Qu'est-ce que c'est? Parce que, il y aurait beaucoup à dire par rapport à ça. Hein, mais, je pense en avoir dit assez pour vous donner un aperçu des choses. Et donc, quand j'ai étudié les différents types de familles aux Antilles, il y a la famille indienne, il y a la famille qui est descendant des Européens qu'on appelait les créoles. On les appelait des créoles parce qu'ils vivaient, tout ce qui vivait dans les îles, on les appelait des créoles. C'était à la fois la langue, mais ça s'est étendu aux personnes qui vivaient dans les îles. Donc les descendants des maîtres de la plantation qui avaient des esclaves, ils existent encore aujourd'hui. Et puis, il y a aussi la famille antillaise. C'est intéressant de voir l'organisation de ces familles. Alors, la famille indienne, Vous n'avez pas ces désinvestissements du père. D'accord ? C'est le père a une place. D'accord ? Parce que ce n'est pas la même histoire. La notion du devenir et de la construction aussi. Alors, ceux qui vont gagner, les Indiens de l'Inde, c'est ils faisaient partie des castes inférieures. Parce que c'était des gens qui venaient beaucoup du monde rural. Donc, en arrivant aux Antilles, ils ne vont plus être considérés comme les moins de la caste. Ça va se perdre pour eux. De toute façon, le colonisateur ne fait pas de différence. Voilà. Alors que la famille Béqué, vous allez avoir la structure père-mère, et la famille antillaise, celle qui est née de l'esclavage, vous allez avoir une matrifocalité. Et la comparaison des systèmes familiaux connaissent en fonction de l'histoire permet de comprendre les effets réellement de ces articles sur la constitution du couple et de la famille. On va la retrouver aussi dans la famille afro-américaine. Alors, comment dire, il y a des personnes qui vont essayer de définir en termes de moins, hein, en plus, ces familles qui sont nées de l'histoire de l'esclavage. Alors, cette matrifocalité va prendre deux aspects. On va lui donner un aspect structurel et un aspect fonctionnel. Bon. Rappelez-vous, c'est une famille, la famille et le couple vont se structurer autour de la loi de survie, rappelez-vous, hein, c'est de la loi de survie. Donc, on va mettre en place de quoi survivre. Hein, c'est pour survivre à la situation. Eh bien, dans cette stratégie pour survivre au trauma, alors on va avoir sur le plan psychologique, cette structure qui est de la survie va être une façon de récupérer de la vie pour ne pas mourir. Hein? C'est une façon de se défendre contre la mort. Et vous allez le retrouver, cette transformation de la vie, dans le gospel. Le gospel n'est rien d'autre que la transformation de la souffrance, le mécanisme de défense qui est derrière, ça s'appelle la sublimation. Transformer la souffrance pour qu'elle ne détruise pas la psyché. Quand on vous chante maintenant du gospel, personne ne voit ça. Mais au niveau psychologique, le gospel est une façon de ne pas mourir psychiquement. D'accord ? Là aussi, c'est la durée de la situation. Et donc, les gens vont transformer. Ils vont transformer cette réalité en gospel. Les Haïtiens vont le transformer en peinture naïve. D'accord ? Les Antillais vont le transformer en musique. Chaque fois, il y aura une transformation pour pouvoir survivre. Vous aurez à voir le roca et tout le reste qui vont être des stratégies de survie. Et qui vont devenir, hein, aujourd'hui, des éléments culturels. Cette pulsion de vie va de vouloir malgré tout passer, et la sublimation va servir comme moyen de se déprendre de la violence de quotidienne, des humiliations, de ça. Donc, la matrifocalité va apparaître chez les anthropologues pour définir la spécificité de cette structure-là. C'est pas matrilinéaire. Quand c'est matrilinéaire, la filiation est par la mère, hein, c'est vrai, et l'oncle est celui qui devient celui qui conduit l'enfant, par exemple. Bon, et c'est un autre dispositif. Alors que la matrifocalité, ici au niveau structurel, se construit autour de la grand-mère et la mère. c'est deux têtes.
C'est-à-dire que dans la structure, vous aurez la grand-mère et la mère. OK ? Donc, vous avez une répartition suivante dans la relation mère-fille. Dans la relation mère-fille, vous aurez la mère qui va regarder, percevoir toujours sa fille comme étant mineure. Pas capable de gérer la maternité tout seul, quel que soit son âge. Bon. Et donc, elle va investir ce qu'on appelle aujourd'hui la grande maternité. Elle va élever, en particulier, le premier enfant lui sera donné. Le premier enfant de la fille lui sera donné, qu'il soit garçon ou fille. C'est pour elle. Combien de gens ont dit qu'ils ont été élevés par leur grand-mère? Et ballotté entre la grand-mère et la mère, la grand-mère et la mère, avec un conflit d'autorité et avec un ascendant de la grand-mère sur sa fille. Enfin, de la mère sur sa fille. Bien. Une éducation, ça c'est une mouvement, c'est vraiment spécifique. Et la chose va se compliquer. Parce que lorsque la grand-mère aura assez vieilli et que l'enfant aura assez grandi qu'il n'aura plus d'énergie, elle dira, tu vas chez ta mère. Ou elle dit, sa fille, tu prends ton enfant maintenant. Tant qu'elle a l'énergie que l'enfant est petit, nourrisson, alors elle materne l'enfant et tout ça. Mais dès que l'enfant commence à être opposant, tu vas chez ta maman. Oui. C'est pas ça? Le pauvre enfant qui ne comprend rien au milieu de tout ça. Hein. Il ne comprend pas pourquoi, du jour au lendemain, sa grand-mère qui faisait fonction psychique de mère, tout d'un coup lui dit, va voir l'étranger que ta mère. Parce que c'est ça qui se passe. Comme elle a toute l'autorité, il est interdit à sa fille de faire des remarques à l'enfant. Il contredit constamment. Et on lui enlève cette autorité. Et je ne vous dis pas. Quand ensuite, en plus, avec le bumidom, on en reparlera. On en reparlera. Donc, vous avez la mère de l'enfant qui vit en France et la grand-mère qui est restée aux Antilles, en Guadeloupe ou en Martinique. Donc, quand il va lui dire, va voir ta mère, ça veut dire que l'enfant doit prendre l'avion pour partir en France. L'enfant peut avoir 10 ans, 11 ans, 12 ans, 9 ans. En tout cas, dès qu'il devient opposant, tu vas voir ta mère. Et tu téléphones, viens prendre ton enfant. J'ai déjà assez fait, viens prendre ton enfant, j'en en veux plus. Je n'en veux plus. Alors, il y en a qui font le va-et-vient plusieurs fois. D'où l'expression d'un psy antillais qui s'appelle, il dit, ce sont des enfants paquets. C'est-à-dire, ça se fait du jour au lendemain sans lui dire, on ne le prépare pas. Du jour au lendemain, lui dit, bon, maintenant, fais ta valise, tu vas voir ta mère. D'accord. On retrouve alors là la violence psychique de l'esclave qui, du jour au lendemain, était vendue comme ça. On va retrouver donc dans la relation éducative chez les enfants, dans la relation avec les enfants, quelque chose de la trace de la position de l'esclave. Il n'y a pas d'élaboration, pas de mise en mots. Tu y pars et tu t'en vas. Donc vous avez... Non, il y a des jours où j'ai pas... Là, je souris parce que c'est... Bon, c'est pas que j'ai envie de rire, mais c'est insupportable.
Bon. Donc, au foyer, et très souvent vous aviez la grand-mère et sa fille qui vivaient sous le même toit. Mais comme elle était constamment mineure, elle n'avait pas du tout le droit de... Et si elle se remariait, l'enfant restait chez la grand-mère. Jusqu'au jour où l'enfant devenait opposant, va chez ta mère. Comment se construire? Comment ensuite construire du lien? Puisque le lien est rompu, point whip, sans élaboration. Hein? Ça s'est perçu comme une violence, comme un rejet. Bon, c'est pas si loin derrière nous, hein, parce que j'en vois qui hoche la tête. Ça continue à se faire malgré tout. Et c'est dommage. Cette matrifocalité aura un deuxième aspect. C'est le deuxième aspect, cette fois-ci c'est fonctionnel. Eh bien, vous allez avoir ce binôme, d'accord, qui va placer du père. D'accord, placer du père. Et le père aura, selon, c'est-à-dire, le père aura une place économique. Donc, l'organisation matrifocale aura deux antennes, ce que je viens de vous dire dans sa constitution, hein, structure, mais dans son fonctionnement, vous aurez du masculin, mais du masculin économique. Il y en a qui connaissent bien, je vois les expressions. J'entends l'expression. Et la guerre menée par les deux, enfin, c'est la mère qui pousse sa fille et qui lui dit, ah, il donne rien à ses enfants. Hein? Et ben, ah, d'accord, hein, il faut lui demander de l'argent pour ses enfants. Il faut lui demander de l'argent pour ses enfants. Qu'est-ce que tu dis? Ben, je sais bien, c'est pour ça que je vous en parle. Mais là, on retrouve le dispositif. L'enfant appartient à qui? À la mère esclave et au père blanc qui pourvoyait aux besoins sur la plantation. Jusqu'à ce que l'enfant, en principe, pas avant l'âge de 11-12 ans, il ne pouvait pas aller dans... Hein? Il ne pouvait pas être vendu ni être travaillé dans la plantation. Mais bien souvent, ce n'était pas respecté. Hein? Il y allait beaucoup plus jeune. Vous allez retrouver alors, dans cette matrifocalité fonctionnelle, une trace de ce statut, hein, que l'article va mettre en place. Symboliquement, on va retrouver la chose. Bon. Bien. Comment la question qui va se poser, c'est comment faire évoluer cette matrifocalité? Elle ne peut pas se faire sans qu'au niveau de la structure, on ne détrône, on déplace la mère potomitan. Parce que la mère potomitan, en réalité, c'est la grand-mère. Voilà. Qui s'occupe de tout, qui... D'ailleurs, le mot veut dire, alors, c'est lié, l'image est liée à la construction de la case. Il fallait cette... quand la case créole, elle a un poteau, hein, comme vous voyez, au centre. Et le toit est comme ça, est aplati comme ça, parce que il est haut. Il est très haut pour faire laisser passer, comme il fait tout le temps chaud, hein, c'est prévu, la case est très à un haut plafond, et il faut qu'il y ait c'est l'équivalent du mur qui soutient. Hein. Là, c'était une grande poutre. D'accord? Cette grande poutre qui tenait tout et à partir de laquelle on organisait le reste hein, qui était en bois. Donc, c'est une image pour dire que la grand-mère est au centre. Le mi-temps, c'est le centre. D'accord? Le mi-temps, c'est le mot créé pour dire que c'est au centre. Donc, c'est la poutre, le poteau, c'est la poutre, au centre de tout. Je ne vous dis pas. Mais pour qu'on puisse sortir de ça, il nous faudra faire bouger cette image-là. D'accord? Alors, je pense qu'il est temps que je m'arrête. Je ne me rappelle plus, je crois que c'était jusqu'à 22. Oui, c'est ça. Il faut que je m'arrête pour laisser le temps. Et la prochaine fois, on va voir ensemble qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle véhicule au niveau psychologique et comment la déplacer pour ne plus avoir cette position qui, en réalité, fait souffrir tout le monde. Et surtout, je vous montrerai en quoi cette matrifocalité, cette femme potomitan va contrarier le principe de Genèse. Les enfants doivent quitter pour s'attacher, pour avoir un devenir. Elle ne laissera pas le quitter. Or, dans l'ordre, le Seigneur nous dit, il faut quitter. Adam et Ève n'ont pas de père et de mère à l'époque. Le principe de vie, c'est que les enfants devront quitter pour pouvoir s'attacher et avoir un devenir. Et comme elle empêche de quitter, on ne peut pas s'attacher parce que ça crée des principes de loyauté et le devenir est entamé. Donc, on n'est pas face à des gens qui sont de bonne ou de mauvaise volonté. On est face donc à une organisation qui s'est mise en place pour survivre à un trauma qui a duré très longtemps et qui va produire un comportement, une façon d'être dont les gens ont perdu de vue l'origine. Et l'idée, c'est de reconnaître l'origine pour pouvoir peu à peu le corriger. D'accord? Bien. Avez-vous des remarques, des questions, des précisions à apporter?
J'ai vu souvent qu'il y avait plusieurs statuts. Il y a le statut d'esclave, le statut d'esclave, le statut d'homme libre, et il y avait un deuxième qui était, parce que là tu as parlé de l'esclave, de l'homme libre avec l'esclave, mais si la femme était libre et l'homme esclave, c'était une troisième.
C'était une troisième disposition, mais ça ne durait pas longtemps. Parce que celui qui était esclave était à tout moment vendu. Donc l'homme libre essayait de créer des alliances avec des autres personnes libres. Et ta question qui va se poser, derrière ta question, il y a de se positionner dans ces différentes places. En fait, ce qui va donner les places, c'est la couleur de la peau, la nuance de la peau. En fait, à travers l'homme libre, on pouvait, comme il y avait cette réalité homme libre, et vous avez vu l'article, quand ils étaient en concubinage, les enfants étaient des bâtards, mais les enfants existaient, ils étaient métis. D'accord? Donc, en fonction de ton degré de métissage, tu avais plus de chances d'ailleurs d'être libre. Hein? D'accord? Voilà. Et on va retrouver des appellations qui sont liées à des couleurs de peau. C'est plus comme ça que ça s'est fait. Donc, on avait la place du maître qui était intouchable. Et tu avais la place des esclaves. Et aussi, parmi les esclaves, il y en a qui étaient affranchis, qui pouvaient être affranchis. Quand il était affranchi, il n'avait pas du tout envie de retrouver une esclave, d'ailleurs, en général. Hein? Bon, il préférait vivre avec un autre affranchi. Mais cet affranchi, souvent, il y avait un lien entre le statut d'homme libre, donc l'affranchissement, et la couleur de la peau. La couleur de la peau. Et c'est resté dans notre vocabulaire pour définir les nuances. Pour vous, quoi. Enfin, quand je dis pour vous, pour les Occidentaux, on est tous noirs. Là. Mais nous, on dira non, c'est la CRT chargeante. Là, là, c'est là. D'ailleurs, on va dire voilà, quelle est la couleur de la peau. En fonction de la couleur de la peau, on a des noms. On a des noms et des statuts. Ça te donne des noms et des statuts. Des positions. D'accord. Si tu es. Alors, vraiment, excuse-moi, frère. Si tu prends. On dit, oh là là, oh, qu'est-ce qu'il est noir, 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 comme du charbon.
Ah oui.
D'accord. Bon. Et c'est juste qu'on va se situer, ah, d'accord, en fonction des nuances. Même nous, de l'extérieur, il n'y a pas ces nuances. Mais les nuances vont être instituées dans notre droit. Et on va reprendre les expressions de classification en couleur, en fonction de la couleur de la peau. Et aujourd'hui encore, on va continuer, on continue de les utiliser. En fait, c'est par rapport au livre et statut, va intervenir un nouvel élément, c'est la couleur de la peau. Le métissage. Ça va? Je ne vous ai pas trop assommé avec tout ça? Le témoignage d'esclaves qui ont réussi à se libérer, qui ont fait partie de la société des Noirs en Angleterre et qui racontent. Eh bien, ils vivaient comme on connaît. Non, non, ils vivaient comme on connaît aujourd'hui par des tribus. Il y avait les Igbos, il y avait des tribus avec les différentes communautés comme on connaît aujourd'hui. Et puis, ce qui était important, c'est ça. C'était vécu comme ça. D'accord? La structure familiale était soit matrilinéaire ou patrilinéaire, tout dépend des zones où on venait. D'accord? Bon. J'ai un ami sociologue et anthropologue. Il a travaillé pour la situation des. À l'île de la Réunion, on les appelle des CAFRES. Les CAFRES à l'île de la Réunion, ce sont des descendants d'esclaves. Bon, et il a travaillé cette question et il en est arrivé à l'hypothèse que peut-être cette matrifocalité serait un reliquat de la matrilinéité africaine. C'est une hypothèse, on est en train d'ailleurs d'échanger là-dessus bon, parce que je trouve que son hypothèse est très plausible parce qu'il a travaillé son doctorat sur les représentations de la personne en Afrique. Hein, les représentations qu'on a de la personne. D'accord. Mais c'était souvent des ados, des jeunes hein, qui partaient. C'est de la loi de survie. Le but, c'est sauver sa peau. Enfin, vraiment, réel. C'est pas aussi duré. Hein? Réel. C'est-à-dire que tu en as réchappé, tu ne vas pas retourner vers la souffrance. Hein? Pouf, 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 pouf. Hein? Il vaut mieux. Hein? Oui, oui, tout à fait. Ça. Et on va avoir cette classification sociale où on va se marier, voilà, entre nous, on va, voilà, ça va se développer. Il va se développer d'une manière d'être. Mais en Occident aussi, c'est développé aussi. On se marie entre ceux qui possèdent, entre ceux qui ne possèdent pas. On se marie pas entre ouvriers. Enfin bref, on est toujours aussi ingénieux pour faire du mal. Bon. D'accord? Ça prend une forme différente, mais c'est toujours la même idée qui est derrière. C'est l'exclusion par la différence. Oui. Ils portent encore ces reliquats parce que. Oh, oui. Ah oui, oui, oui. Alors. Oh oui, ils portent ce reliquat. Ils portent ce reliquat parce que dans le discours parental, ça reste encore très présent. Ah ben oui, maintenant. Hein. Qu'est-ce que tu allais me chercher là? Moi, je veux une chabine. Bon, s'il est très noir, mais il faut qu'il soit très intelligent à côté de ça. Hein. Enfin bref, ça reste dans les mentalités. Et le drame, c'est ça. C'est que lorsque on construit quelqu'un, et vous le voyez chez les individus, hein, on dit à quelqu'un quelque chose de lui-même, et qui finit par, à force de le lui répéter, la personne finit par y croire, alors d'elle-même, elle va maintenant faire fonctionner la chose. C'est vrai dans tout le domaine, hein, c'est pas seulement... Hein, qui sont nés ici. Alors, c'est intéressant parce que... C'est... Alors, ceux qui sont nés aux Antilles, c'est plus manifeste. D'accord? Bon, je ne vais pas en parler parce que mes nièces sont nées ici. Et elles me disent, ah, si, mais moi, je ne reconnais pas ces gens-là. Hein? Je dis, sauf que quand tes parents te parlent, ils te parlent avec ce langage. Et toi, on te dit, ah, toi, tu as des beaux cheveux, hein, c'est l'aîné, et que tu ressembles à ton gars parce que tu es bien foncé. Oh, la cadette, ah, cette chabine, elle a mauvais caractère, cette chabine. Hein? D'accord, parce que la chabine, on pour encore, on la réputation d'avoir mauvais caractère. Ça, c'est une cadette. Elle est bien choisie, mais elle est un peu comme ça. Et comme elle est plus vindicative, on lui dit la chabine, d'accord? Elle n'est pas. Le vocabulaire lui est réutilisé à son endroit, même si elle n'est pas née là-bas. Et je lui ai dit, tu vois, toute la façon, la manière dont tes parents, les parents vous nomment et réagissent, et vous avez la même chose. Et j'ai dit, tu as remarqué, quand ils sont pas ils sont pas fâchés, ils te parlent français. Mais quand ils ont peur, ils te parlent. J'ai dit résultat. Hein? Tu comprends quelques bruits, même si tu ne comprends pas tout. J'ai dit je veux bien, mais tu as quand même les parents qui sont nés là-bas et qui consentent de te transmettre une part de cette réalité tout de même. Hein? Et du coup, les enfants qui sont nés ici connaissent quelques bribes de mots. D'accord? Même s'ils ne parlent pas la langue. Vous avez vu? Elle ne se perd pas. Elle se transmet quand même. Oui. 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 Oui, c'est vrai. De reconnaissance. Et ça fait longtemps qu'elle existe, mais elle est habitée différemment. Absolument. Oui, c'est normal. Voilà où nous en sommes. La génération de ma grand-mère était dans une logique d'assimilation. Il fallait faire comme l'Européen et nier son origine africaine. Et elle était dégradée. La génération, c'est celle d'Aimé Césaire et des grands qui ont pensé la négritude. C'est la grande période où l'Afrique était fascinante. La récupération de l'origine africaine. Et maintenant, vous avez la nouvelle identité qui est la créolité, qui est ni ça, ni ça, mais la reconnaissance d'une réalité spécifique. C'est pour cela que les jeunes sont dans la créolité, parce qu'entre-temps est passée effectivement la reconnaissance du crime. Donc eux, ils n'ont plus... Voilà. Et du coup, regardez, la Guadeloupe est devenue Guada. Guadada. Pour eux. Hein? Et il y a une revendication maintenant de ça. Donc on a vu arriver les trois processus. Ça a correspondu à des générations fort différentes. La jeune génération est dans une logique de créolité, avec la revendication de cette identité construite à partir du trauma. Oui. Oui. Alors, voilà. C'est le mot créole pour dire Guadeloupe. On a d'ailleurs, il y a eu une création. Avant, on disait toujours la Guadeloupe, la Guadeloupe, la Guadeloupe. Cette génération a, non seulement dans la créolité, va réhabiliter, ici déjà, elle va s'amorcer ici, hein, une réhabilitation de la langue créole. On est passé ici à la non-reconnaissance comme une langue à part entière, on appelait ça un patois, à l'amorce d'une reconnaissance, et la reconnaissance est suffisamment pleine parce qu'elle est enseignée à l'université, elle est structurée, il y a une grammaire créole bien structurée, et maintenant il y a même des dictées, comme Bernard Pivot en créole. Donc les gens qui n'ont pas appris à l'école la langue créole, parce qu'on ne l'apprend pas, hein, on ne l'apprenait pas à cette époque, et maintenant on l'enseigne. Avant, ici, elle était interdite. Enfin, d'ailleurs, elle empêchait la réussite scolaire. Mais les Bretons ont eu ça, d'autres régions de France, ils ont eu ça. Hein. La langue régionale était interdite et attaquée. Elle empêchait la réussite scolaire, disait-on. C'est pas vrai. Bon. Donc, mais aujourd'hui, il y a la récupération de la langue. C'est une vraie langue organisée. Avec même, j'ai travaillé, je l'ai connu à une époque, Hector Poulet et Viviane Telchide, ce sont deux personnes qui se sont battues pour ça. Et ils ont fait une grammaire créole enseignée, ils ont eu des brimades et tout le reste. Hein. Et Hector a traduit la Bible en créole. D'accord? Bien. Il y a une reconnaissance aussi, non seulement de la cuisine, de toute l'art, tout ce qui se fait sur place. D'accord? Et donc, il y a eu avec la créolité la volonté de nommer aussi en créole l'île qui ne soit plus la Guadeloupe, mais Guadeloupe comme ça s'écrit en créole. Et avec un diminutif Guada. D'accord? Bien. Alors, chabine, c'est une couleur de... Tiens, la chabine, c'est celle-là. Il y a plusieurs chabines. Là, c'est une chabine. Alors, parfois, on a des nuances un peu plus accentuées. Il y a des sapotis. D'accord? C'est un métissage. D'accord? C'est un degré de métissage. Chabine dorée. En plus, il y a chabine dorée. La chabine dorée, c'est comme ça, un peu bronzée. Hein? C'est un peu comme un être, quand tu poses au soleil, la chabine dorée. Oh. Soit on en pleure, hein? Soit on fait quelque chose, d'accord? Donc, le mieux, c'est d'en faire quelque chose. Alors, si, parce que... Enfin, oui, parce que...
Qui leur ont fait du tort et qui vont encore en faire.
Voilà. Et l'une des choses que la créolité revendique, c'est la femme potomitan. Elle est devenue maintenant mythique. D'accord? Elle est devenue la référence de la créolité. Pourquoi j'ai dit, je ne vais peut-être pas me faire des amis quand je vais commencer à l'attaquer. Et dire en quoi... moi, je vous ai dit, j'ai toujours la perspective du Seigneur. Hein? Derrière ça, ça entrave le quitter, hein, la règle de vie qui est donnée pour construire du lien. C'est le quitter, s'attacher pour avoir un devenir. Mais celle-là, elle ne laisse pas cette place. Oui, il y a des choses comme ça.
Mais c'est ça, je pense aussi à la place du père. S'ils ont tiré une façon de faire,
oui.
Ça va évoluer dans le bon sens.
Oui, alors, il y a de ce qui a progressé, c'est le lien père-enfant. Les hommes commencent à trouver les enfants intéressants. D'accord? Ils vont à faire plus d'activités avec eux. D'accord? Voilà, plus de manifestations affectives. Ils vont être moins dictateurs. Enfin, il y a quelque chose de cette évolution dans la fonction paternelle. Mais il reste encore la construction du mari, mari-femme. Parce que ce qui a avancé, c'est père-mère. Et le mari-femme reste encore à construire. Parce que ce ne sont pas les mêmes.
Et c'est pour ça que si l'actualité a beaucoup de succès, ça va freiner.
Mais oui, c'est sûr. C'est pour ça que de temps en temps, je rappelle que la mère potomitan est un homme. Est une mère qu'on doit déplacer. Oui? Oui. Sarkozienne aussi à Haïti. Ils ne l'appellent pas tout à fait pareil, mais c'est les mêmes systèmes. Oui, parce que la fille est mineure encore. Elle n'est pas tout à fait affranchie à Haïti. Et puis la précarité fait qu'on continue à rester dans la survie et dans le groupe familial. C'est le groupe qui permet la survie. Alors qu'en Guadeloupe ou en Martinique, on n'a plus besoin l'individu peut exister. C'est une des différences. Bon, et deuxièmement, la différence fondamentale avec Haïti, c'est qu'à Haïti, ils avaient commencé à faire la traite et à mettre les gens d'une même tribu, les Ibo. Hein? Les Haïti, on a mis les Ibo ensemble. Ils se sont rendus compte que les Ibo ont fait la révolution. Avec tous ces ouvertures et tout le reste. Eh bien, ils ont dit, ils ne vont plus faire ça. Ils vont séparer les tribus. Les origines. Mais au départ, à Haïti, on avait les Ibo. Donc, le fait déjà qu'à Haïti, c'est la même tribu qu'on a, qui était déportée, mais qui s'est retrouvée, ça va donner autre chose aussi dans la culture haïtienne. Hein? Cette solidarité, et c'est seulement à Haïti qu'on va avoir cette révolte qui va se transformer en république. Mais elle aura un prix. Hein? Il faudra payer en or pendant des années, là, ce qui va ruiner le pays d'ailleurs. Parce qu'il fallait dédommager les maîtres de la perte de leur esclave. Mais c'est tout, mais je suis d'accord. La prochaine fois, je parlerai de l'éducation. La différence éducative entre la fille et le garçon. D'accord? Vous avez... Excusez-moi, je prends juste une image, un raccourci. Vous n'allez pas m'en vouloir.
Non.
Vous avez le prince, le roi et la boniche. Très tôt, on va demander à la fille de prendre des responsabilités et quand elle ne voudra pas, on va la punir pour ça et le garçon pourra se tourner les pouces pendant longtemps. D'accord? Il y aura une différence éducative assez marquée dans la relation mère-enfant. Et on verra sur le plan psychologique, c'est parce que la mère répète cette distinction que ça perdure. C'est elle qui doit corriger et non pas le père. D'accord? Mais pour qu'elle le corrige, il faut qu'elle sache passer du rôle de mère à rôle de femme. Et ça, c'est pas net dans sa tête. C'est difficile à gérer dans sa tête. Parce qu'en fait, pour qu'elle ait une femme, il faut qu'en face, elle ait un mari. Et comme Les père-mari est difficile à gérer aussi. Donc, on a toujours le repli sur la maternité, sur l'enfant. Ça reste toujours la valeur sûre. Oui, la dernière, et puis on va s'arrêter. Oui. Maintenant, on n'est plus dans la survie. On est appelé à vivre. Et pour vivre, il faut corriger ces lois de survie. Hein? D'accord, hein? Elles n'avaient pas le choix. Elle avait un statut, il y avait une reconnaissance quand même. Même si elle était... Il y avait une reconnaissance par la loi. D'accord? Bon, un privilège par rapport à l'autre. Bon, eh bien, oui, il a bien fallu survivre. Mais aujourd'hui, on n'est plus la génération où on doit survivre. Ça fait longtemps qu'on n'a plus besoin de survivre. On a besoin de vivre. D'accord? Et ces lois de survie vont continuer quand par ça et là. D'ailleurs, vous l'avez reconnu, elles sont encore assez vivaces pour que, je pense qu'il nous faut réfléchir là-dessus et les modifier un peu pour nous permettre de vivre. On n'a plus besoin de survivre. D'accord? Eh bien, je voudrais vraiment vous remercier, hein.